Merci, Monsieur le Président. Pour la communication de l'Asana que je vais vous lire, il n'y a pas de PowerPoint, et ça paraît un peu bizarre. Là. Voilà.
Alors, donc, je vais, comme c'est, vous lisez la présentation de notre collègue, je vais donner le titre. Ça s'appelle « Comment minimiser le pillage du patrimoine par la création de structures de gestion déconcentrées sur les sites patrimoniaux, le cas des missions culturelles du Mali. »
Merci. Le pillage des ressources culturelles africaines est indissociable des autres formes de pillage que le continent africain a connues depuis la conquête coloniale. Les premiers explorateurs et les expéditions scientifiques savamment organisées par des ethnologues et des collectionneurs d'objets d'art ont enclenché un processus d'écumage de tous les champs du patrimoine culturel, œuvres d'art, monuments, sites, expressions orales immatérielles. Le Mali est au cœur d'anciennes terres de civilisations millénaires où se sont développées des cultures matérielles riches et variées, ainsi que des traditions sociales séculaires qui ont constitué et constituent encore le terreau de programmes de recherche et d'études ethnologiques, archéologiques, anthropologiques et ethno-archéologiques. Si les recherches et autres études ont favorisé la connaissance et la promotion de l'histoire, de la culture et de ses ressources au Mali, elles ont eu parfois des effets induits qui ont contribué à la destruction partielle et durable du patrimoine. Ainsi, les sites du delta intérieur du Niger et les vestiges Telem du pays Dogon ont fait l'objet de fouilles clandestines et de prospections non autorisées, parrainées par des collectionneurs occidentaux, surtout au cours des années 1980. Conscient de l'ampleur du phénomène de pillage des biens culturels et de la perdition des valeurs culturelles immatérielles, l'État malien a pris des mesures législatives et réglementaires, mais a aussi mis en place un dispositif institutionnel s'exprimant par la construction d'un musée national digne de ce nom et la création de structures déconcentrées de gestion des sites majeurs, dont prioritairement ceux concernés par le pillage et les fouilles clandestines. Il s'agit de Djéné, la falaise de Banyangara, Tombouctou et Gao. La création des structures déconcentrées, missions culturelles, a entre autres objectifs le contrôle du trafic et la commercialisation illicite d'objets d'art dans ces régions culturelles, la protection des sites contre les fouilles clandestines et la sensibilisation des communautés de sites pour minimiser ces pratiques qui se muent en fléau au vu de l'ampleur qu'elles prennent. Un autre objectif est la coopération avec les multiples et fréquentes équipes de recherche et d'études qui séjournent fréquemment sur les sites. Les missions culturelles ont été créées en 1993 sur les sites de Banyangara, Djéné et Tombouctou. Quelques actions significatives de conservation et de promotion de ces missions culturelles, je cite, à Djéné par exemple, la mission culturelle de Djéné, au cœur du delta intérieur du Niger, a mené des actions de conservation et de promotion d'envergure. Outre des mesures de protection physique du célèbre site archéologique de Djéné-Djéno, elle a participé à tous les programmes de recherche menés sur les sites, notamment ceux concernant l'anthropologie et l'archéologie. On peut citer parmi les résultats atteints par cette institution déconcentrée la mise en œuvre d'un programme d'inventaire et de documentation en étroite collaboration avec l'Institut des sciences humaines et d'autres partenaires étrangers, la création d'un musée de sites au sein de la mission culturelle. Les collections de ce petit musée contiennent aussi des biens culturels issus de fouilles archéologiques que d'objets d'art et de valeurs saisis sur les trafiquants et autres fouilleurs clandestins. Le recrutement de surveillants de sites pour traquer les clandestins qui menaient fréquemment des opérations de fouilles nocturnes. La mise en œuvre d'un important programme de sensibilisation à Djéné et ses environs et l'organisation d'expositions d'objets et la production de documents promotionnels. La sensibilisation et l'éducation au patrimoine. Il y a eu des diffusions de textes législatifs et réglementaires régissant le patrimoine, l'élaboration de paquets pédagogiques à l'attention des scolaires, l'utilisation des médias modernes, la radio et traditionnels, théâtre et causerie par exemple. Au pays Dogon, la mission culturelle de Banyangara, qui encadre un périmètre classé assez vaste, 4000 km², est difficile à parcourir, a réalisé certains projets et programmes d'envergure qui concourent actuellement à la protection locale du patrimoine. Il s'agit d'initiatives de construction d'infrastructures culturelles et touristiques locales. On part de ces initiatives à des actions de saisie des biens culturels du patrimoine et les résultats nous paraissent éloquents. Il s'agit d'abord de l'inventaire et de la documentation du patrimoine en collaboration avec l'Institut des sciences humaines du Mali, l'UNESCO et d'autres partenaires techniques de la coopération bilatérale. Il s'agit également de la forte implication depuis 1997 dans le programme de recherche pluridisciplinaire Peuplement humain et paléo-environnement en Afrique de l'Ouest, coordonné par la mission archéologique et ethno-archéologique suisse en Afrique de l'Ouest et l'Université de Genève. La construction de 3 musées villageois, un musée à Nomori, un musée à Ndé et un à Soroli, pour ceux qui ont déjà visité le pays Togo. La participation à la construction du musée régional de Banyangara, financé par l'Union européenne dans le cadre du 9e FED, qui piétine encore, ce n'est pas ouvert encore ce musée. La mise en œuvre d'un programme de sensibilisation et d'éducation au patrimoine en direction des communautés de sites, des touristes et des scolaires. Diffusion des textes législatifs et réglementaires régissant le patrimoine, élaboration de paquets pédagogiques à l'attention des scolaires, séances villageoises d'animation par le biais du médium traditionnel, le théâtre et la projection de films, la création de comités villageois de protection du patrimoine culturel et naturel. Et ainsi que il y a également la détermination de nouveaux circuits touristiques et le fléchage des parcours. Dans le cadre de la lutte contre le trafic des objets volés et saisis du guérisseur d'Anubolo, 1998, le procès intenté contre un pilleur du Binou, sanctuaire totémique de Tandibolgo, sur le plateau de Banangara, saisie et restitution du couple fétiche des Neni, falaise, saisie et remise d'objets de culte de Védier sur le plateau. Vous avez vu hier dans le film le fétiche de Neni. Tombouctou. La mission culturelle de Tombouctou a mis l'accent surtout sur la sensibilisation et l'éducation des populations. Elle a néanmoins contribué à la naissance ou à la création d'associations et d'ONG consacrées à la conservation locale du patrimoine culturel. Plusieurs bibliothèques de manuscrits privés sont ainsi créées et fonctionnelles. L'ONG Savamment Sauvegarde et Valorisation des Manuscrits est une entreprise culturelle résolument engagée dans l'identification, la conservation et la mise en valeur du patrimoine écrit des régions nord du Mali et d'ailleurs. Elle bénéficie d'appuis financiers de partenaires au développement, la Fondation Ford, la coopération luxembourgeoise et la coopération danoise également. La gestion du musée municipal de la ville et des maisons d'explorateurs est aussi suivie de près par la mission culturelle. La sensibilisation et l'information du public sont des activités transversales à bien d'autres actions initiées par la mission culturelle. À Gao, l'action phare menée sur le site archéologique de Gao Sané, c'est-à-dire Gao ancien, s'inscrit dans le cadre de la conservation du patrimoine de cette ville. L'opération est copilotée par la Direction nationale du patrimoine culturel, l'Institut des sciences humaines et l'Université d'Osaka au Japon. Les fouilles menées ont permis de sauver des objets de valeur dont certains ont été auparavant extirpés par les fouilleurs clandestins et leurs complices. D'autres fouilles sont en cours sur le site dit de la mosquée ou du palais de Kangou Moussa, toujours en collaboration avec l'Institut des sciences humaines et le Japon. En outre, les missions culturelles sont associées au programme de recherche et d'études initié par les institutions et chercheurs maliens en étroite collaboration avec des institutions et universités partenaires des pays du Nord. Maintenant, quelques difficultés relatives à la lutte contre le trafic et l'exportation illicite des biens culturels. Sur le plan législatif et réglementaire, le patrimoine culturel au Mali est régi par la loi 8540-RM du 26 juillet 1985, récemment modifiée par la loi 1661 du 30 décembre 2010. Les difficultés d'application des textes législatifs et réglementaires sont réelles et se manifestent sous deux angles. L'insuffisance et l'insignifiance des sanctions prévues par les textes et l'utilisation à des fins de rançon ou de raquette par les agents chargés de la répression policière, les policiers, les gendarmes, les auxiliaires de justice et autres agents de l'État. L'affaire des fétiches du village des Néné en est l'illustration parfaite. Vous avez pu voir ça. La police a fermé les yeux sur cette affaire. Sur le plan local, la principale difficulté rencontrée est l'identification du ou des complices dans les cas de vol ou de vente illicite d'objets. À partir du moment où le partage du butin exclut certains complices, ceux-ci n'ont généralement d'autre choix que d'aller dénoncer les commanditaires à la mission culturelle ou à la brigade de gendarmerie. Souvent même, c'est le voleur qui crie au voleur, car dans du boulot au pays d'Ogo. Sur le plan de la gestion du commerce licite des biens culturels, l'organisation de la prospection et de l'exportation du patrimoine mobilier est uniquement dévolue au Musée national de Bamako, qui est la structure habilitée à délivrer le permis de prospection et l'autorisation d'exportation. L'autorisation d'exploitation, ça c'est le décret relatif à la réglementation de la prospection, de la commercialisation et de l'exportation des biens culturels, et un arrêté portant réglementation de la profession des négociants en biens culturels. Ce sont ces textes qui donnent toute l'autorité au Musée national pour régler cette affaire. Et ce musée est situé à des centaines de kilomètres des lieux qui peuvent être pillés. Pour le cas du pays d'Ogon, qui est une région frontalière du Burkina Faso, par lequel transitent plusieurs touristes, Banangara est situé à 350 km de Ouagadougou et Bamako est à 700 km. Quelle que soit la bonne foi de certains commerçants d'objets d'art, la tentation est grande de passer frauduleusement du côté de la frontière. Une déconcentration du système d'octroi des autorisations et permis est plus que nécessaire pour soutenir et encourager les commerçants qui veulent respecter la législation. Maintenant, quelle perception du rapport probable entre programme de recherche et recrudescence systématique des fouilles clandestines sur le site du Mali? Je te pose la question. Au cours des années 1980, des découvertes issues de fouilles archéologiques dans le delta intérieur du Niger ont été suivies de fouilles clandestines et sauvages, notamment à Tchal, non loin de la localité de Ténénkou. Cette coïncidence est à l'origine de beaucoup de supputations qui ont fait croire que les trafiquants locaux de biens culturels sont commandités par des collectionneurs étrangers qui ne vivent que de la commercialisation d'objets d'art africains, les fameux terracotta. Il n'est pas interdit de faire effectivement le lien parce que cette curieuse coïncidence a trouvé l'implantation du réseau de trafic d'objets dont les centres étaient séparés à Mopti et Bamako. Les fouilles archéologiques menées pendant les années 1960-1970 par les chercheurs néerlandais, l'Université d'Utrecht, dans les infrastructures des grottes Telem au pays d'Ogon, ont produit les mêmes effets de délestage de sites haut perchés. En 1995, nous avons saisi dans le village de Nomori une solide corde torsadée léguée à leur guide de Sangha par les chercheurs néerlandais. Cette corde était louée par des grimpeurs clandestins à 1000 francs CFA par jour dans le but de piller les objets de culte entreposés dans les grottes sépulcrales et les sites archéologiques. La corde a été bien évidemment saisie et remise à la gendarmerie, mais elle a curieusement disparu au bout de quelques temps. Loin de faire une déduction hâtive, nous avons pensé un moment que l'information sur les importantes découvertes archéologiques faites dans ces deux régions du plateau central nigérien a été fréquemment dissiée au sein du réseau local de trafic d'objets dont la chaîne opératoire est solidement ancrée dans les zones concernées. L'impact des sécheresses successives au Sahel a donné un coup d'accélérateur à l'implication de plus en plus risquée des trafiquants locaux qui se ruaient sur les sites scientifiquement fouillés et leurs périmètres immédiats. La création des missions culturelles a visiblement contribué à réduire cette pratique de fouilles clandestines après le passage des chercheurs, quand bien même des foyers persistent dans les zones difficiles d'accès pendant certaines périodes de l'année, saison des pluies. Faut-il maintenant restituer les biens culturels à leur région d'origine ou dédommager les propriétaires légaux et leurs ayants droit? Revenons au débat qui était hier dans le film. Les chercheurs ont toujours soutenu que lorsqu'un objet est extrait de son contexte archéologique originel, il ne fournit plus d'informations scientifiques, culturelles et historiques. Il devient un objet mort. Seulement, les objets ne présentent pas qu'un intérêt archéologique. Pour les marchands d'art, ils sont surtout prisés pour leur beauté artistique et esthétique et leur exotisme. Dans ce cas précis, La restitution paraît opportune, d'autant plus qu'il est question de création et de créativité artistique. L'économie de la culture se fonde actuellement sur les industries culturelles et créatives, dont la racine est le patrimoine. Il faut donc restituer au peuple créateur leur propriété, à César ce qui appartient à César. Il est admis par tous que les galeristes, les marchands d'œuvres d'art, les collectionneurs, y compris les musées occidentaux, tirent des profits énormes de ces valeurs culturelles authentiques, qu'ils ont transformées en de simples marchandises. Ressort de cela une analogie exagérée entre cette pratique et celle de l'esclavage qui a déshumanisé l'homme africain. Vu les sommes astronomiques d'argent qu'apportent les biens culturels africains, le dédommagement est pour l'instant un rêve, mais il deviendra inéluctablement une réalité tant que des individus et des sociétés continueront à vivre de ces ressources culturelles frauduleusement extorquées à leurs propriétaires. Oui, je finis dans 3 minutes. Le discours d'exposition universelle apparaît à bien des égards comme étant une diversion et ne saurait convaincre les Africains. Il est important de porter cette réflexion aux législateurs, juristes et autres gestionnaires de la propriété intellectuelle et des conventions internationales régissant le patrimoine sous toutes ses formes. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle devrait se pencher sur la question en collaboration avec les institutions africaines et d'autres organisations internationales telles que l'ICOM. Le concept d'exposition universelle ou les mécanismes appropriés pour doper la conscience africaine. Un proverbe du Mali dit que le tronc d'arbre peut longtemps séjourner dans un cours d'eau, mais il ne peut jamais se muer en caïman. Le débat récent en cours soulevé lors de l'exposition Tiwara, organisée au Musée national de Bamako en avril-juillet 2011, et qui a vu la présentation de masques du même nom sortis du pays depuis le début de la colonisation française, a montré ses limites. Pour beaucoup de Maliens qui ont vu l'exposition, il apparaît moqueur de venir faire voir de façon furtive des biens culturels auxquels ils s'identifient formellement et de les retourner sous le faux et démagogique prétexte d'une exposition universelle. Je garde et conserve vos objets dans des conditions idéales, mais me réserve le droit de vous les faire revoir chez vous de temps à autre. Les musées et les galeries en Occident sont réticents à l'idée de restitution des biens culturels à leur pays d'origine et proposent à sa place celle d'une exposition universelle. L'argument brandi, malheureusement justifié dans bien des cas, est que ces pays n'ont pas toujours une bonne politique de conservation du patrimoine. Cet argument se justifie à l'expérience parce que certains biens que nous avons saisis et remis à leurs propriétaires ont été simplement revendus par la suite. Ceci s'explique souvent par le fait que les besoins grandissants, les populations pauvres ont un choix limité à accepter ou refuser une somme faramineuse apportée par la vente d'un morceau de bois qui permettra de résoudre le problème récurrent de survie de la famille. Une autre raison est qu'à la faveur de la reconversion à une autre religion, l'islam ou le christianisme, l'objet perd son intérêt cultuel et devient ainsi vulnérable. Tant que gestionnaire de sites depuis plus de 15 ans, mon point de vue à partir du constat de terrain est qu'il n'y a aucune différence perçue localement. Pour un paysan du pays Dogon, entre un objet de fétiche gardé dans une galerie privée ou conservé dans une institution officielle de conservation, musée, c'est du même au pareil. La conservation in situ nous paraît la mesure idoine et persuasive pour assurer la protection durable des biens culturels produits loin des centres modernes de conservation en Afrique. Enlever et éloigner les objets de leur contexte original, quelle que soit la forme, licite ou illicite, n'est pas de nature à mettre en confiance les créateurs du patrimoine culturel. Le retour, la remise et la garde dans leur contexte original des fétiches de Néni nous ont confortés dans cette conviction. Ces objets dorénavant emblématiques sont redevenus fonctionnels après leur resacralisation, car les communautés du village qui s'identifient à ces objets nous envoient régulièrement des messages de Yapo, Yapo, littéralement merci pour hier. Elles se sentent bien en sécurité maintenant, dès lors que chacun individuellement peut procéder au sacrifice nécessaire dans le sanctuaire totémique autour du couple fétiche pour qu'un vœu soit exaucé. Les collections Telem conservées au musée de Leiden, sur la base d'accords signés avec les autorités maliennes, accords connus de peu de professionnels maliens, ont très peu d'impact sur le site du pays Dogon. Il est vrai que l'ambassade des Pays-Bas depuis 1996 appuie financièrement le programme de restauration de l'architecture monumentale du Mali. Le pays Dogon en a bénéficié d'ailleurs. Mais est-ce une raison pour conserver aussi longtemps un patrimoine culturel précieux issu de fouilles légales alors que les conditions locales de conservation sont en train d'être réunies? Un musée régional vient d'être réalisé à Bamako. Les prochaines années nous édifieront sur la résolution de cette équation protocolaire à plusieurs inconnus. L'exposition récente sur les Dogons au musée du Quai Branly en est une autre illustration. Cette institution muséale d'envergure internationale a exposé des chefs-d'œuvre de la culture matérielle Dogon et les propriétaires des objets sont pour la plupart des antiquaires et grands marchands d'art connus. Beaucoup de chercheurs se sont émus sur le caractère déontologique et éthique d'une telle exposition, mais rares sont ceux qui l'ont critiqué ouvertement. Certains scientifiques et hommes de culture ont probablement participé à sa conception parce que travaillant ou ayant travaillé pour ce musée de renom ou pour des raisons pécuniaires. C'est donc une fausse dialectique que de parler de collectionneurs privés d'objets quand les musées publics cautionnent des expositions ou gardent par devers eux des collections africaines dont l'usage n'est pas toujours élucidé ou spécifié. Des accords et des contrats sont établis, mais ceux-ci se renouvellent rarement. En conclusion, le péril demeurera sur la mémoire africaine tant que certaines questions relatives à la gestion du patrimoine et ses ressources demeureront sans réponse. Voilà, j'en ai fini.
Merci beaucoup, M. Sanogo. J'ai vraiment apprécié le fait que même lisant le texte d'un collègue, vous êtes arrangé à être dans le temps. Merci beaucoup. Nous allons prendre quelques questions avant de commencer. Il y a le micro, oui, monsieur.